Je propose d'ouvrir la fenêtre pour que nous ayons moins chaud. Il n'y a pas de fenêtre. Ah. Bien, alors, j'ai le plaisir de présenter mon ami Claude Coupry, qui est ingénieur de recherche au CNRS et qui, comme les orateurs précédents, a au moins deux casquettes, sinon plus. Elle est à la fois chimiste et historienne. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'elle travaillait, elle continue de travailler d'ailleurs, sur les manuscrits enluminés du Moyen-Âge et elle s'intéressait aux matériaux et spécialement aux pigments, en collaboration avec les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France. Alors, elle me dit avoir changé le titre de son intervention, donc je lui laisse vous présenter le titre définitif qu'elle a choisi. Merci. Claude, c'est à vous.
Merci, Michel. Bien, Anne a parlé tout à l'heure, enfin, ce matin, de le premier titre choisi avait été « À chacun sa couleur ». Et moi, ça me convient très bien, parce que ma couleur à moi est extrêmement concrète. Elle concerne les matériaux même colorés, mais étudiés sous un aspect très, très réducteur, puisque ce qui m'intéresse, c'est le rôle et l'apport de la chimie pour, dans la quête de couleurs nouvelles ou pour générer des couleurs. Donc, je vais négliger beaucoup d'aspects très, très intéressants, comme ceux que Michel Menu a évoqués tout à l'heure. Avec moi, je ne parlerai pas de mélange de couleurs, de sous-couches, pas d'interprétation sociologique ou symbolique. Malgré tout l'intérêt, je suis absolument incompétente et ça ne correspond pas au but que je poursuis. Et de la même façon, l'iconographie que je vais utiliser est très réduite et simplement choisie pour illustrer un contexte technique précis et non à cause de sa beauté. Bien sûr, il y a quelquefois de très belles images. Alors, quels sont les produits colorés qui sont à notre disposition? Tout d'abord, les produits naturels, dont on a déjà parlé longuement, qui proviennent du règne minéral ou d'origine animale ou végétale, mais très rapidement, l'activité humaine a produit des produits artificiels ou synthétiques. Et là, je fais une différence entre les deux. Les produits artificiels reproduisent, imitent un produit naturel, alors que les produits synthétiques fabriquent un produit totalement inconnu et présent dans la nature. Mais quels sont les moteurs de cette activité pour produire ces produits colorés? À quel besoin et dans quel cadre opère-t-il? En un mot, comment intervient la chimie pour compléter ou suppléer un manque dans la nature? Cette distinction entre produits naturels et produits artificiels est envisagée depuis très très longtemps, dès le IVe siècle dans les écrits de Théophraste, quand il dit « l'art imite la nature et produit des choses originales ». Ça correspond tout à fait à ce que j'appelle les produits artificiels. Et cette affirmation est reprise par Pline au début de notre ère. Quelle que soit la catégorie des couleurs, là il ne s'agit plus de couleurs austères ou futiles, mais de couleurs naturelles ou artificielles. Ce qui veut donc dire que, je vais dire, de tout temps à jamais, l'homme est intervenu pour produire des couleurs. Sans doute, la première modification de la couleur intervient lors du chauffage des ocres, qui sont colorés par différents oxydes de fer, en jaune, rouge ou noir. Un ocre jaune chauffé se déshydrate, prend alors une teinte rouge, semblable à celle d'ocre rouge naturel, mais il y a apparition dans la structure submicronique de l'ocre de nanopores qui sont caractéristiques de ce mode de chauffage, et ce qui permet de distinguer ocre rouge naturel et ocre rouge résultat d'un chauffage. Cette distinction, cette observation, demande une technique très lourde qui a été développée au C2RMF, en particulier par Michel, et donc a été appliquée à un certain nombre d'échantillons. À ma connaissance, les échantillons les plus vieux analysés ainsi remontent à 100 000 ans avant notre ère. C'est une publication très récente de 2012 sur les 4 échantillons qui proviennent du site Neskoul en Israël. 2 échantillons montrent qu'ils ont été chauffés avec un chauffage contrôlé, donc intentionnel. Celui-ci a été chauffé pendant 2 heures à 500 degrés. Celui-là a une température un peu inférieure, mais dans ces cas, la couleur est homogène. Celui-là n'a subi aucun mode de chauffage, il est resté jaune. Celui-là, certains points sont très rouges, d'autres jaunes, et les auteurs pensent qu'il s'agit d'un échantillon qui a été chauffé accidentellement, déposé près d'un foyer de haute température. Donc il s'agit là d'une modification volontaire, mais une fois que ce résultat est obtenu, il est impossible de dire dans quel but. On aurait pu penser qu'il s'agissait d'un but artistique. Le problème, c'est qu'un tel résultat n'a jamais été trouvé sur des peintures pariétales. À Lascaux en particulier, jamais on a mis en évidence que les ocres rouges résultaient d'un chauffage. On peut penser que c'est parce que les ocres rouges de Lascaux avaient une qualité telle que ce n'était pas possible de les améliorer, que ce n'était pas utile de les améliorer. Si on continue à chauffer des échantillons d'ocre rouge, l'oxyde obtenu est noir, et là, le but artistique est évident dans la coloration de ces vases grecs à figure noire ou sur fond noir. Mon but n'est pas de rapporter des recettes chimiques qui ennuieraient tout le monde, mais de comprendre pourquoi des recettes ont été mises au point. Et dans cette perspective, dans un premier temps, les produits bleus sont particulièrement appropriés pour suivre l'introduction avec des repères assez bien définis, l'introduction de la chimie dans les matériaux de la couleur. Si on regarde ce que la nature propose, les colorants bleus, donc là je rejoins ce qu'a dit Anne, donc exactement les mêmes photos pratiquement, les colorants bleus sont obtenus à partir de plantes et on peut trouver des plantes dans l'univers entier. Ils appartiennent à des familles végétales différentes. En Asie et en Afrique, ce sont des indigotiers. En Europe, la guêpe, c'est une... Et en Chine, c'est la renouée des teinturiers qui est employée majoritairement pour teindre en bleu. Comme l'a dit tout à l'heure Anne, ces fleurs, jaunes ou roses, vont permettre, la plante, par l'utilisation des feuilles, va permettre d'obtenir dans tous les cas la même molécule, la molécule d'indigotine, donc base de tous ces colorants bleus. Donc on a à notre disposition une source importante de colorants bleus et qui va être utilisée avec une grande ampleur en teinture depuis des époques très anciennes, puisqu'on la retrouve en Égypte et dans tout le monde méditerranéen et ailleurs, mais jusqu'au 19e siècle, pratiquement, l'indigo sera utilisé en teinture. Les choses se présentent tout à fait différemment pour les pigments bleus. Les minéraux bleus sont très rares. On en connaît essentiellement 2, lapis lazuli et azurite. Pour la France, on peut parler d'un autre minéral bleu, l'aérinite. Et de plus, lapis lazuli et azurite sont dans des mines peu répandues ou très éloignées de chez nous. Donc la question qui s'est posée aux artistes, s'ils voulaient utiliser un pigment bleu, une seule solution, c'est de fabriquer. Et c'est ce qui s'est passé pour le premier pigment bleu en Égypte. C'est un pigment de synthèse, fabriqué sûrement, il a été identifié en 2500 avant notre ère. On pense que c'est le premier pigment de synthèse de l'humanité. Le modèle n'existe pas du tout. C'est un pigment qui est un travail artisanal. C'est un mélange de trois produits à base de cuivre, de calcium et de sable siliceux. On sait qu'il faut le chauffer entre 850 et 1100 degrés. Il y a des grains bleus dans une matrice, des grains cristallisés bleus dans une matrice vitreuse. Le mode opératoire, alors que les textes égyptiens sont en général très bavards dans tous les domaines, aucun texte ne parle de la fabrication de ce pigment. Il faut se tourner vers un seul texte romain. C'est Vitruve qui, un siècle avant notre ère, va raconter ce qu'il voit dans une fabrique dirigée par Vestorius. Il raconte ce qu'il voit et en fait, la recette qu'il indique est fausse. Il n'a pas bien compris tous les éléments de la recette, en particulier, il ne parle pas trop de l'introduction de silice, de calcium, parce que c'était contenu déjà dans le sable. Voici la formule du bleu égyptien et la coloration est liée à la présence de cuivre. Ce pigment a été produit avec une très très grande ampleur et on a des traces d'intermédiaires de fabrication dans des fours. On trouve des boulettes de bleu égyptien telles que celle-ci. Ce pigment a été utilisé bien sûr en peinture murale, mais également on peut trouver à Pompéi, c'est comme une mosaïque, il y a des tesselles de verre, il y a des coquillages, et puis ces boulettes sont des boulettes de bleu égyptien coupées en deux. Donc on voit avec quelle intensité ce pigment a été produit. Si nous suivons son utilisation, elle est connue par les fouilles, en particulier les fouilles sous-marines ont montré dans des bateaux des cargaisons entières.
Je vais faire comme tout le monde, c'est plus simple.
Des cargaisons qui présentaient des quantités importantes de bleu égyptien, mais dans beaucoup de cas, ce sont les analyses sur les objets qui vont indiquer la présence de bleu égyptien. Donc, je n'avais pas pensé parler de la technique d'identification que nous avons employée. Donc, c'est une technique qui a été développée beaucoup et utilisée beaucoup au laboratoire. C'est la microspectrométrie Raman. Lorsqu'un échantillon est éclairé par une source lumineuse, il y a diffusion de la lumière. Et si la source lumineuse est monochromatique, comme c'est le cas des lasers, la lumière diffusée est interprétable. C'est une véritable signature du produit qui a été éclairé. L'intérêt de la microspectrométrie Raman, c'est qu'on peut focaliser le laser avec un appareil de microscope classique, et donc la zone analysée fait un millième de millimètre, d'où la possibilité de travailler sur des prélèvements qui ont cette taille. Et on va donc pouvoir prélever des échantillons qui font un centième de millimètre et les analyser ensuite. On connaît des ateliers de fabrication. En Égypte, le principal centre semble être Alexandrie. En Italie, c'est Ostie, Pouzzole, là où était la fabrique de Vestorius, et Cum, qui a été récemment fouillée et on a trouvé des très très beaux échantillons. En Gaule, plusieurs centres existent, en particulier à Lyon. Le problème de l'absence de pigments bleus s'est posé hors du monde occidental et a été résolu de différentes façons. Le bleu maya est un produit synthétisé à partir de deux constituants, une argile très particulière, une argile fibreuse, dont l'espacement des différents plans permet l'introduction des molécules plates d'indigo. C'est un pigment obtenu par chauffage à 190 degrés pendant 5 heures, pigment extrêmement stable et avec une très belle teinte. En Chine, c'est le bleu Han, mais sur lequel on a peu d'informations parce que assez peu d'analyses ont été faites. Il a été fabriqué sans doute à partir de 500 avant notre ère. Sa formule est très proche de celle du bleu égyptien où le calcium serait remplacé par du barium. Donc la couleur là est toujours liée à la présence de cuivre, mais on voit que les très, très grandes distances, les démarches ont dû être assez similaires. Je vais retourner maintenant dans le monde occidental, et je commence bien sûr par le monde médiéval, cher à nous tous. Ces trois manuscrits, produits dans un laps de temps très court, dans une centaine d'années, vont illustrer les possibilités de pigments. Tous les résultats que je vais vous présenter sur les manuscrits correspondent à des analyses effectivement faites. Donc, ce sont des résultats pour lesquels on est sûr. Peut-être que d'autres pigments existent, mais on peut certifier la présence de certains de ces pigments. Les évangiles de Lindisfarne, Lindisfarne est une abbaye de la côte est de l'Angleterre, ont été décorés. Tout l'ensemble du manuscrit a été décoré avec de l'indigo. C'est le chercheur qui a identifié cet indigo, l'a fait après une étude assez longue, qui remontait à plusieurs années, et dans lequel, à l'œil nu, il avait dit qu'il y avait deux pigments bleus différents. L'analyse a montré qu'il n'y en avait qu'un seul, ce qui veut dire à quel point il est difficile de se fier à une identification à l'œil nu. Le second évangile, l'évangiliaire de Charlemagne, de 781, est très important. C'est la première fois qu'une fontaine de vie est figurée dans le monde occidental chrétien. Il y a de l'indigo. Mais ce qui est important, c'est la présence de ces deux pans qui sont au-dessus de la fontaine de vie et dans lequel on a pu identifier, enfin Patricia Roger a pu identifier la présence de bleu égyptien. À notre connaissance, c'est une des dernières utilisations de bleu égyptien et on peut se demander s'il s'agit d'un pigment fraîchement préparé ou s'il s'agit d'un pigment de récupération. Le bleu égyptien est important, c'est une très belle couleur et qui donne de l'éclat. Là, on peut presque l'identifier à l'œil nu. Quand on a l'habitude sous microscope, il est particulièrement éblouissant. Le dernier manuscrit, fait à une vingtaine d'années d'écart, toujours dans l'entourage de Charlemagne, présente aussi une fontaine de vie. Il y a aussi de l'indigo dans le reste du manuscrit, mais là, première utilisation, sans doute, de l'azurite. Il est également décoré avec de l'azurite. La lazurite et l'azurite, deux pigments différents qu'il ne faut pas confondre. Mais c'est sur celui-là que je vais d'abord m'attarder. La lazurite, c'est le bleu tiré de la pierre de lapis lazuli. Voilà un échantillon de lapis lazuli et on voit ces grains bleus très intenses. Les seules sources connues à l'époque médiévale et avant sont en Afghanistan, dans une vallée retirée, assez retirée. La préparation de cette, pour passer de la pierre au pigment, c'est très difficile. Il faut broyer la pierre, puis après la séparer bien sûr du reste de la roche. On utilise une dizaine de bains différents, de résines avec des qualités différentes, à des températures différentes. Et c'est vraisemblablement un des pigments pour lequel on trouve le plus de modes de préparation tout au long du Moyen-Âge. En 1410, un recueil conservé à la Bibliothèque nationale qui rapporte beaucoup de modes de préparation de pigments, a plusieurs préparations de pigments et où il insiste sur la purification et sur ses difficultés. Trois qualités sont annoncées et au XVe siècle, on a une idée des prix. La première qualité vaut son pesant d'or. La seconde qualité vaut son pesant d'argent. Quant à la troisième qualité, elle est juste bonne pour effectuer la sous-couche. Et Michel a parlé des sous-couches avec des produits de moindre qualité. Voici un exemple. Même en lapis lazuli, on peut faire des sous-couches de qualité médiocre. Ce manuscrit a été produit et décoré à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre en l'an 1000. C'est le seul manuscrit décoré d'Auxerre et il présente simplement deux pages décorées. Celle-ci, c'est le présente l'offrande, présente le, la prosternation de l'abbé de l'abbaye devant le patron, Saint-Germain. Les deux personnages sont vêtus de bleu. Le vêtement de Saint-Germain est décoré avec du bleu de lapis-lazuli, alors que l'abbé a été décoré avec de l'indigo. Là, on peut voir que la hiérarchie des pigments souligne la hiérarchie des personnages. Donc, montre le prix du lapis-lazuli dès l'an 1000. Ce pigment bleu de lapis-lazuli a été utilisé pendant tout le Moyen-Âge pour décorer énormément de manuscrits. Une des plus belles utilisations, c'est pour les manuscrits de Jean de Berry, autour, enfin, après 1400. Ce sont les belles heures du duc de Berry. Et dans cette annonce au berger, tous les bleus, qu'il s'agit, les différents bleus du ciel, comme les bleus de la décoration ici, sont faits avec du bleu de lapis-lazuli. Le second pigment d'origine naturelle, c'est l'azurite, dont Michel a parlé. C'est un carbonate basique de cuivre naturel. Dès le IXe siècle, on le voit dans cette sacramentaire de Corbie, et suivant sa mise en œuvre et suivant sa densité, mais surtout sa granulométrie, on peut avoir des teintes assez différentes. Au XVe siècle, on peut avoir une teinte très vive. C'est une géographie de Ptolémée faite en Italie au XVe siècle. Par contre, cette statue de Sainte-Hélène, qui provient d'un retable de Sainte-Anne conservé en Belgique, montre un bleu beaucoup plus terne. Dans les deux cas, c'est l'azurite qui a été utilisée. À côté de ce carbonate basique de cuivre, il existe un carbonate artificiel qu'on appelle traditionnellement les cendres bleues. Voici un échantillon qui est conservé à la manufacture des Gobelins. La formule chimique est la même, donc pas d'identification possible par une technique analytique. On va trouver le même composé, un carbonate basique de cuivre. La différenciation se fait suivant la taille des grains obtenus. L'azurite naturelle est obtenue par broyage. Ce sont des grains à arêtes. Les grains sont à arêtes relativement gros. Les cendres bleues sont obtenues de façon chimique, on va obtenir par précipitation, on va obtenir des grains beaucoup plus ronds et plus petits. Les cendres bleues ont souvent été confondues avec l'azurite, et c'est pour ça qu'il y a une certaine ambiguïté pour reconnaître l'un ou l'autre. Les cendres bleues apparaissent sûrement au XVe siècle, mais sans doute avant, et ont pu être utilisées très longtemps, puisque cet échantillon date du XIXe siècle. Au cours du temps, le prix du lapis-lazuli augmente, l'azurite devient rare, il faut donc essayer de trouver d'autres pigments. Et au XVe siècle va apparaître le smalt. C'est un vert potassique dont la couleur est due au cobalt. Il est dérivé des techniques verrières, et dès une haute antiquité, on connaît des verres au cobalt. À Babylone, en Égypte, en Grèce, verres au cobalt. Et on pense que c'est en voyant ces verres que quelqu'un a commencé à vouloir le faire calciner avec du sable, et on aboutit au smalt. Plusieurs dates d'origine sont proposées, ce qui veut dire qu'on ne la connaît pas. Elle a été utilisée avec beaucoup d'ampleur au XVIe et XVIIe siècle. Par exemple, Rembrandt, Rubens l'ont beaucoup utilisée. Vermeer aussi, dans ses premiers tableaux. Vermeer l'a utilisée pour rehausser la blancheur, en particulier des murs. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, il ne va plus utiliser le smalt, mais utiliser du bleu de lapis-lazuli. Le défaut du smalt, c'est la décoloration que l'on observe en présence de médiums huileux. C'est un prélèvement qui a été fait sur un tableau de Rembrandt. Il y a quelques grains bleus qui restent, mais tout le reste, ce sont des grains incolores, smalt qui a perdu sa couleur. On peut dire que le smalt correspond à une préparation très, très empirique. Le pigment suivant, lui, correspond à quelque chose de tout à fait différent. C'est un ferrocyanure de fer qui n'existe pas dans la nature, mais on peut dire que c'est un hasard heureux exploité intelligemment. Trois acteurs sont en cause. Le premier, c'est un marchand de couleurs qui voulait produire un produit rouge. Il lui manquait un des éléments. Il va chez son voisin qui était pharmacien, qui lui vend un produit, pas exactement le produit désiré. Le mélange donne une magnifique couleur bleue. Le pharmacien voit qu'il y a un filon à exploiter, va l'exploiter et sort ses premiers échantillons en 1706. L'affaire est reprise par, je vais dire, un commercial qui va publier la recette, prendre des brevets. Mais entre-temps, le pharmacien avait envoyé des petits échantillons un petit peu auprès des grandes écoles artistiques pour qu'ils testent ce nouveau pigment. Et la première identification date de 1709. C'est un ensevelissement du Christ qui est conservé dans un musée en Autriche, non, en Allemagne. Et là, ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle les artistes s'emparent d'un nouveau produit. Il y avait réellement un manque dans ce produit, pour un produit bleu, et immédiatement, il est exploité. Watteau va l'utiliser dès 1712, identifié dans la Marie au village, mais le bleu de Prusse va continuer une carrière triomphale. Constantin Guise, en 1866, l'utilise, et il est toujours utilisé actuellement, puisqu'en 1957, Riopel l'utilise dans un tableau que je n'ai pas pu avoir. Le bleu de Prusse est utilisé en technique artistique, mais aussi pour les arts décoratifs. Le pianoforte de Trianon en 1790 montre un décor avec du bleu de Prusse. Et à cause de l'incendie du Parlement de Bretagne, on a pu mettre à jour des papiers peints qui étaient masqués. Et donc on a vu que ces papiers peints qui dataient 1830 comportent des zones avec du bleu de Prusse. Mais une étape absolument décisive pour la chimie, c'est Lavoisier. Au temps de Lavoisier, les noms définissaient très mal le produit. Et tout en étant très éloigné des termes tout à fait, je n'ose pas dire exotiques, qu'utilisaient les peintres. Mais les scientifiques, par exemple, parlaient de fleurs argentines de régal d'étain. Lavoisier dit qu'il faut utiliser le muriate ammoniacal de régal d'étain, parce que la notion de muriate introduit la notion d'acide murique. Et pour Lavoisier, on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage. D'où la publication de ces deux traités extrêmement importants pour la chimie. Méthode de nomenclature, il essaie de faire quelque chose de tout à fait raisonné, puis un traité élémentaire de chimie qui sont présentés dans un ordre nouveau avec les derniers avancements scientifiques. Et parallèlement à ces deux ouvrages, Lavoisier fait publier dès 1789 les annales de chimie où vont être rapportées les différentes avancées en chimie. Vauquelin, chimiste très important, va travailler, participe peu aux publications, mais participe beaucoup aux recherches. Et c'est lui qui va montrer la potentialité du chrome. En 1789, dans les Annales de chimie, il publie un texte important sur une substance nouvelle contenue dans le plomb de Sibérie et qu'on propose d'appeler chrome à cause de la propriété qu'il a de colorer les combinaisons où il entre. Deux ou trois numéros plus loin, il revient là-dessus. Il dit que cette couleur n'est pas du tout liée au métal lui-même, mais c'est lié aux combinaisons. Et il dit que ces combinaisons fourniront de très belles et de très solides couleurs à l'art de la peinture et de l'émail. Donc on voit cette synthèse tout à fait volontaire pour aboutir à un nouveau produit pour les artistes. Quelques années plus tard, en 1802, Chaptal est ministre de l'Intérieur. Et Chaptal est beaucoup plus qu'un grand scientifique. Il est très intéressé aux applications scientifique des découvertes. Et il y a toujours ce besoin crucial de pigments bleus qui coûte très cher à la France pour en produire. Et donc, il demande à Thénard de fabriquer un pigment bleu en utilisant le cobalt, puisqu'on savait que le cobalt pouvait teindre en bleu. Et il dit que Thénard, conjointement avec Mérimée, a trouvé une composition de cobalt qui remplace l'outremer avec avantage. Il donne la synthèse et il conclut « On obtient une composition d'un beau bleu égal à l'outremer et pouvant comme lui être employé à l'huile. » L'expérience a justifié cette assertion et ce bleu de cobalt est déjà devenu une branche de commerce. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le bleu de cobalt ou bleu Thénard est très cher. Donc on a vraiment besoin encore de faire des recherches. Le bleu de cobalt est utilisé très rapidement par les artistes, enfin pas si rapidement que ça, c'est Monet. Oui, donc c'est pas si rapide que ça. Mais ça a été édité avant, utilisé avant. Et là, ce gros plan sur l'avant-cour sous la neige, toute cette partie-là est faite avec un bleu de cobalt et il est rehaussé par les touches de jaune de chrome qui jouent sur le contraste des couleurs. La National Gallery a publié ce qu'il estime être une palette impressionniste de base et on voit que un grand nombre de produits existent depuis simplement le début du XIXe siècle. Ce produit pour lequel je n'ai rien indiqué, c'est un produit extrêmement important. Le bleu de lapis-lazuli intriguait absolument tout le monde. Et depuis la moitié du XVIIIe siècle, des recherches avaient été faites. Donc, on connaissait à peu près sa structure. On savait ce qui le composait, et donc des essais de synthèse avaient été faits. Ça a été l'occasion d'un concours en 1826. Chaptal, entre-temps, a fondé la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et il y a vraiment un besoin très important d'un bleu beau et pas cher. C'est Guimet qui va gagner le concours en 1828. En 1830, il fait la première production industrielle qui va avoir une application dans le domaine artistique, mais une application beaucoup, beaucoup plus importante encore dans l'azurage. C'est une fibre bleue qui a été prélevée sur une lettre de Nadar en 1857. On voit la fibre de bleu et puis des tout petits grains bleu, c'est du bleu outremer, même formule que le bleu de lapis-lazuli, mais là, la taille des grains, leur forme, nous indique qu'il s'agit là d'un produit artificiel. 1856, c'est la grande révolution là, pour les colorants synthétiques industriels. Des colorants avaient déjà été produits, mais jamais sur le mode industriel. C'est Perkins, donc, qui est le premier à l'origine. Et là, comme le bleu de Prusse, c'est un hasard heureux, très bien interprété. Perkins voulait faire de la quinine. Il laisse le produit n'est pas à la bonne température. Il renverse le flacon. Ça tombe sur sa blouse et il voit une très belle couleur violette. Mais en plus, il est impossible de le sortir. Donc il se dit, là, j'ai un colorant stable. Ce colorant a eu un très très grand succès et Perkins dit oui donc il renverse l'éprouvette et je vis qu'il produisait sur le parquet et sur ma blouse des taches certes belles mais surtout indélébiles. Sans le savoir, je vais inventer ce colorant de bonne tenue dont l'industrie textile avait tant besoin. Donc il dit que le nom a été choisi par son épouse mais ce fut pour nous tous le début d'une période faste chargée de gloire et de richesse. Tout cela pour avoir découvert par hasard et breveté en toute connaissance de cause le premier colorant artificiel utilisable par l'industrie en toute quantité. Ce qui, il faut l'avouer, était loin d'être le cas des colorants naturels, souvent fort coûteux et difficiles à obtenir. Cette première synthèse, faite à partir des dérivés de la houille, va ouvrir la porte à une foule de colorants. Donc, il n'est pas question que je les commente, mais vous voyez des formules chimiques dans tous les sens. C'est un véritable jeu de l'ego. On met des substituants, des chlores, des méthyles, on modifie les structures, on les allonge. Chacune de ces molécules va donner naissance à des colorants avec un cahier des charges assez précis. D'abord, le premier effet, c'est la teinte, avec un effet de mode. Par exemple, la mouvéine a ouvert une mode très importante pour le violet, puisqu'on l'a vu apparaître sur des timbres très rapidement. Le second, c'est la facilité de fabrication et d'utilisation, d'application, la stabilité par rapport à la lumière, à l'eau, à l'oxygène, la toxicité, qui est un élément qui devient de plus en plus important actuellement, c'est, je dirais presque, le second élément dans le cahier des charges. Et enfin, ce qui intéresse au premier stade les industriels, le coût. Donc, je n'ai pas résisté à montrer quelques nuanciers qui sont conservés à la manufacture des Gobelins, des établissements Kuhlmann. Les colorants pour soie, colorants pour soie bleue, colorants pour soie entre violet, ce qu'ils appellent violet et rouge, des gammes équivalentes, toujours chez Kuhlmann. Donc ça date des années 30, mais ces nuanciers ne sont pas datés avec certitude. Colorants pour laine équivalents. Deux colorants sont particulièrement intéressants pour la France, mais pour beaucoup de régions, c'est la synthèse de l'alizarine en 1869 et surtout la synthèse de l'indigotine. Alors, sans doute en 1870 par Bayer, ce qui est certain, c'est que son industrialisation commence une vingtaine d'années plus tard. Donc on voit le laps de temps qui peut séparer la découverte d'un colorant et sa mise en œuvre industrielle. Ces colorants sont importants parce qu'ils vont sonner le glas de la production de garance et d'indigo. Pour deux raisons, c'est beaucoup moins cher, leur utilisation est beaucoup plus facile, et la production de la garance et de l'indigo couvrait des zones énormes et qu'ils vont pouvoir revenir à l'agriculture. La production d'alizarine, on peut dire qu'il reste quelques niches. Enfin, ça, c'est vrai pour l'Europe occidentale. Hein. Il y a des pays comme l'Asie où la production d'indigo reste importante et la teinture par indigo est toujours une teinture importante. En Europe occidentale et en France, c'est plutôt à titre presque de conservatoire. Une autre branche qui va être intéressée par ces colorants, ce sont les colorants alimentaires. Le premier colorant synthétique, c'est le jaune de quinoléine, connu sous le nom très évocateur de 1-104. Il a été très attaqué, on dit qu'il est cancérigène, il semble que ce soit tout à fait faux. Par contre, il est sans doute allergène. Il est toujours utilisé, en particulier dans les bonbons Haribo. La production intéresse beaucoup toute l'industrie. Les colorants alimentaires intéressent beaucoup l'industrie agroalimentaire. Et donc, on voit dans le même nuancier des colorants végétaux qui ont des noms, je ne sais pas si vous arrivez à les lire, grenadine, fraise végétale. On voit tout de suite quelle est la source. Mais dans le même nuancier, trois pages plus loin, on a les colorants aniline qui sont tout à fait trompeurs parce qu'ils ont des noms très proches. Au lieu de s'appeler fraise végétale, ils s'appellent fraise SC. Il faut savoir que là, c'est un colorant à base d'aniline. Il n'y a pas que la pâtisserie et les gâteaux qui sont intéressés. Le dernier, c'est colorant pour boyaux. Donc, c'est la charcuterie là, qui est directement intéressée par ces produits. La démarche très intelligente de Lavoisier, eh bien on peut dire qu'elle est complètement oubliée maintenant. Les colorants ont des noms tout à fait peu explicites. Par exemple, ce colorant, un colorant dans le color index s'appelle Dispersis Blue 3, est vendu sous le commerce sous tous ces noms-là. Et quelquefois, la même compagnie, ICC ou BAC ou CIBA, va refaire le même colorant sous des noms différents. Donc on est absolument perdu dans cette forêt de colorants. Il y a actuellement à peu près 10 000 colorants recensés dans le Color Index. Tous ne sont pas utilisés, mais c'est quand même une forêt. Et les Color Index correspondent à des colorants déclarés, mais il existe des colorants non déclarés qui sont utilisés. Je voudrais revenir aux artistes qui utilisent ces colorants de synthèse. Ce sont les colorants de la manufacture des Gobelins, les colorants actuels. La manufacture produit des fibres colorées, laine ou soie, pour les différents types de tapisseries, haute et basse lisse, pour les tapis ou pour les restaurations. Et toutes les teintes sont obtenues en trichromie avec ces trois colorants qui sont utilisés quotidiennement et qui correspondent aux noms particulièrement peu esthétiques: jaune tactylon, bleu tactylon 6GF et rouge lanaper 405. Mais on peut voir qu'avec trois colorants, un artiste va arriver à obtenir des merveilles, telle cette tapisserie qui a été faite dans les années 1980 au Gobelin sur un carton de Burie. Ils arrivent aussi à des teintes, des harmonies beaucoup plus subtiles. Voici par exemple une gamme chromatique d'un bleu-vert, d'un gris-vert, à peine coloré, toujours en trichromie. Donc chacune de ces teintes est obtenue avec trois colorants et qui aboutit à ce tapis sur un dessin de Claude, sur un carton de Claude Lévesque, dans ce tapis qui semble a priori avoir été fait avec deux voire trois couleurs, il y a 40 teintes. Ce qui permet ces modulés de couleurs qui reflètent un lustre qui serait suspendu au plafond. La comparaison, donc voici l'épopée des bleus synthétiques, pour lequel j'ai reproduit un bleu Klein. Donc voici les différents bleus synthétiques. On commence bleu égyptien, smalt, bleu de Prusse, cendre bleu de cobalt, bleu d'outre-mer, indigo. Bleu monastral, c'est une phtanocyanine de cuivre qui est le pigment bleu le plus utilisé actuellement, et le bleu de Klein, tout à fait lié à l'artiste. Si on les compare au bleu naturel, il n'y a que trois bleus d'origine naturelle: l'azurite, qui correspond au cendre bleu de lapis-lazuli, bleu d'outre-mer, et l'indigo, qui correspond à la plante indigo. Mais je voudrais mentionner quand même la collaboration très fructueuse et très chaleureuse que j'ai avec l'atelier de teinture des Gobelins, au cours de discussions toujours très animées autour de ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Donc je vous remercie. Pour ceux que ça intéresse, c'est un très bon dictionnaire qui est apparu il y a combien ? 4 ans ? 3 ans ? Où il y a beaucoup, beaucoup de choses sur les matériaux du peintre, pigments, colorants, médias. Tu le connais, Michel ? Tu l'as ?
Merci, Claude, pour ce voyage dans les bleus et pour cet exposé très clair et très didactique. Nous avons appris beaucoup de choses. Qui souhaite prendre la parole ? Michel, oui ?
Le bleu de Prusse est un pigment redoutable parce que plus on le frotte, plus ça se colore. Et c'est assez effrayant comme utilisation. Alors il migre beaucoup dans les autres teintes lorsqu'on l'utilise. Et si on l'utilise par exemple en fond, automatiquement il ressort sur toutes les autres couleurs qui viennent ensuite. Quoi.
Oui. Par exemple, il n'a jamais remplacé l'indigo pour faire des fonds, pour faire des sous-couches. Jamais. Enfin, pas à ma connaissance. Donc, je crois que ça rejoint ce que vous dites là. Et l'expérience d'un peintre, c'est la chose la plus importante pour nous, pour savoir comment un pigment est utilisé et concrètement quels sont ses défauts ou ses qualités.
Oui, je crois que ça, c'est juste d'ailleurs de parler du prix, combien ça coûte aussi pour l'expérience du peintre.
Oui. L'outre-mer est très bon marché actuellement.
Oui. Par contre, le cobalt est horriblement cher.
Oui, parce que les mines de cobalt, enfin, c'est fait à partir de cobalt extrait des différents minerais de cobalt et qui ne sont pas. Enfin, ils sont. Il y en a assez, mais le cobalt sert principalement à autre chose. Je crois que pour un but artistique, c'est 2 ou 3 % de la production de cobalt, simplement. Autrement, c'est pour les alliages.
À qui le micro ? On étudie les traités des peintres, les écrits des peintres.
C'est pénible, ce micro.
Michel, moi.
Jusque au moins à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, on est sidéré de l'absence totale de rapport qu'il y a entre les écrits des peintres et les œuvres des mêmes peintres. Quand on prend le traité de peinture inachevé de Léonard de Vinci et puis les tableaux de Léonard de Vinci, ça n'a aucun rapport. Et puis il y a un moment où ça commence à en avoir, les conseils sont plus pragmatiques, les observations faites à l'usage, des considérations comme celle que Michel vient de faire de plus en plus nombreuses, la façon dont le verre de cuivre artificiel, le verre de gris est corrosif, attaque le support, attaque les couleurs voisines, etc. Donc, moi qui suis médiéviste, je suis toujours dérouté par un certain nombre de textes émanant des milieux des peintres qui sont intéressants à étudier, mais qui n'aident en rien à comprendre les pratiques de la peinture. Et puis, mes collègues spécialistes de l'époque moderne ou contemporaine qui ont là une source documentaire extrêmement importante. Qui souhaite intervenir ? Des peintres qui ? Oui, mais ça doit s'étudier aussi, le n'importe quoi. Quels sont les ingrédients et les façons d'opérer pour faire du n'importe quoi ? En plus, il y a les secrets d'atelier, la façon dont les durées, les proportions, les quantités ne sont jamais données. Ça, c'est le genre recette. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ça se transmet de manière orale, ça ne s'écrit pas du tout. Ou bien, il y a des phrases un peu ambiguës. Si tu veux faire un peu de peinture verte, prends des lamelles de cuivre, verse du vinaigre et attends soit 3 jours, soit 9 mois. Voilà un type de recette. Symboliquement, c'est en effet la même idée pour la culture médiévale. C'est le temps d'une gestation, d'une attente. 3 jours ou 9 mois, c'est pareil. Mais pragmatiquement, ce n'est pas du tout la même chose, évidemment. Alors, la parole est au dernier orateur de la journée parce que celui qui était prévu, Michel Imbert, n'est pas là. Nous devions être 4 Michel, nous ne sommes que 3 Michel. C'était un programme bien construit, mais c'est Bernard qui va prendre la parole. Bernard Valeur, qui est professeur, qui est physicien, chimiste et professeur au Centre national des arts et métiers, et qui va nous parler de différentes questions. Il m'a dit qu'il allait un petit peu augmenter, puisque Michel Imbert n'est pas là, son propos pour nous parler également un peu d'optique qu'on n'a pas beaucoup évoqué au cours de cette journée. Donc, je lui donne la parole pour une communication dont le titre prévu est conservé. Un dialogue entre lumière et matière, la genèse des couleurs.
Merci. Je voudrais d'abord dire que je suis très heureux de participer à cette journée que j'ai trouvée extrêmement enrichissante et je tiens à remercier Michel Pastoureau de son invitation et Yann Bonnefoy pour l'excellente organisation. Alors, sachant effectivement que Michel Imbert ne venait pas hier soir après le repas, j'ai modifié mon diaporama. Il ne s'agit pas de l'augmenter parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais il est important effectivement d'expliquer maintenant, on aurait peut-être pu commencer par là, mais on termine par là, ce n'est pas grave, d'où viennent les couleurs finalement et comment nous les voyons, comment nous les percevons. Donc les phénomènes à l'origine des couleurs sont d'une très grande diversité. Et ce que je voudrais, c'est dresser un panorama aussi complet et rationnel que possible de ces phénomènes. Alors, les couleurs proviennent d'un dialogue entre la lumière et la matière. Les couleurs n'existeraient pas sans la matière. En effet, elles résultent de l'interaction entre les ondes lumineuses et les objets. quand la matière ne se fait pas elle-même émission de lumière colorée. Je devrais dire émission de lumière que nous percevons colorée. Alors, je vais faire un certain nombre de rappels de base, notamment en ce qui concerne la vision, pour dire d'abord que la lumière visible qui provoque chez nous des sensations colorées est constituée d'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Et il y en a bien d'autres. Il y a, comme vous le savez, les ondes hertziennes que reçoivent vos téléphones portables, la télévision, la Wi-Fi, les micro-ondes, les télécommandes infrarouges, les UV, les rayons X, etc. Alors, une onde électromagnétique, je rappelle, comme son nom l'indique, c'est une onde constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui vibre de conserve, qui se propage, parce qu'une onde, c'est une vibration qui se propage. Et une caractéristique importante, c'est la longueur d'onde, qui est la distance entre deux crêtes. Et pour ce que nous appelons la lumière visible, ces longueurs d'onde, en gros, vont de 400 à 700 nanomètres. Ça peut aller jusqu'à 750, 780, si l'intensité lumineuse est très élevée. Et puis en dessous, vers 380. Mais je simplifie, simplement. Alors, vous voyez, contrairement à ce qu'on voit très souvent représenté, je n'ai pas du tout indiqué les couleurs de l'arc-en-ciel ici, entre 400 et 700 nanomètres. Pourquoi ? Et là, je voudrais insister très lourdement. Les ondes électromagnétiques n'ont pas de couleur. La couleur n'est pas une propriété des ondes électromagnétiques. Ce qui n'empêche pas que ces ondes puissent provoquer chez nous une sensation colorée. Si ce pointeur laser, je le dirige vers ma rétine, je ne vais pas le faire parce que je vais l'endommager, mais je vais pointer l'écran et donc ce que vous voyez, c'est la réflexion diffuse de cette onde électromagnétique qui très exactement est à une longueur d'onde de 532 nanomètres, parce que c'est une diode laser, donc une longueur d'onde très précise, eh bien, je vais avoir une sensation de vert. Pourquoi j'ai une sensation de vert ? Parce que cette onde électromagnétique qui frappe la rétine, donc les photorécepteurs, vont déclencher, grâce à ces photorécepteurs, toute une série de réactions biochimiques dont le résultat final va être une impulsion électrique, qu'on appelle le potentiel d'action, et ces impulsions sont transmises au cerveau via le nerf optique. C'est ce que j'ai représenté ici de façon très naïve. Mais pour bien vous montrer que l'œil n'est pas un appareil photographique qui vous donne une image qui est transmise au cerveau, non, c'est un train d'impulsion électrique qui est transmis au cerveau et le cerveau interprète ce train d'impulsion pour nous donner une sensation de vert. Alors à 580 nanomètres, c'est une sensation de jaune, 700 nanomètres de rouge, 470 bleu, 400 violet, et à toutes les longueurs d'onde intermédiaires, on perçoit des teintes intermédiaires avec toute une gradation continue des couleurs. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Quand nous avons une sensation de jaune, ça peut être dû au fait que nous percevons de la lumière à 580 nanomètres, mais c'est loin d'être le cas le plus fréquent. Nous avons une sensation de jaune lorsque, simultanément sur la rétine, nous recevons une lumière à 700 nanomètres et à 530 nanomètres, qui séparément nous donnent des sensations de rouge et de vert, mais qui simultanément donnent une sensation de jaune. Et d'ailleurs, sur cet écran, le vidéoprojecteur fait de la synthèse additive des couleurs, c'est-à-dire que le jaune que vous voyez, c'est vraiment une superposition de rouge et de vert. Ce n'est pas du jaune pur à 580 nanomètres. Et puis, nous avons aussi une sensation de jaune lorsque le spectre visible, la partie visible du spectre, est amputée des radiations de courte longueur d'onde dans le violet et dans le bleu. Et c'est seulement lorsque toutes les longueurs d'onde du visible sont représentées que nous avons une sensation de blanc, avec différentes sortes de blancs suivant les proportions relatives des intensités aux différentes longueurs d'onde. Mais je ne rentre pas dans les détails. Mais il ne faut pas s'y tromper. Si vous regardez le soleil ou une source de lumière blanche à travers un prisme, vous retrouvez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, c'est très important de toujours garder à l'esprit que l'œil est la palette qui mélange les couleurs, et c'est ce qu'avaient déjà compris les Égyptiens. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur que nous percevons d'un objet résulte d'une interaction entre la lumière et la matière que constitue cet objet. Et vous remarquez ici que je n'ai pas représenté la tomate en rouge. Je l'ai représentée dans la perception que nous en avons. Pourquoi ? Eh bien, parce que la couleur rouge n'est pas une propriété de la tomate. La preuve, c'est que si je diminue l'intensité lumineuse et que je regarde la tomate dans la pénombre, je ne vois plus de rouge. Je vois un niveau de gris. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, à faible niveau de lumière, les photorécepteurs de la rétine qui peuvent répondre, ce sont les bâtonnets. Et les bâtonnets sont très sensibles, mais ne donnent aucune sensation de couleur. Si j'augmente l'intensité de la lumière, donc en plein jour, eh bien je vais effectivement avoir une sensation de rouge, parce que cette fois-ci, ce sont les cônes qui entrent en action. Ils sont sensibles à des niveaux de lumière supérieurs. Et ils donnent la sensation de couleur parce qu'il y en a de trois types dont vous avez ici les réponses spectrales en fonction de la longueur d'onde. Alors pourquoi la tomate est-elle rouge ? Question de base. Parce qu'elle contient du lycopène. Le lycopène, c'est un composé chimique qui absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf celles qui correspondent au rouge. De même, les feuilles sont vertes parce qu'elles contiennent la chlorophylle qui absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf dans le vert. Donc tous ces composés sont chimiques. Et on a pour habitude de parler de couleur chimique, qui est un raccourci de couleur liée à la nature chimique. Si maintenant, comme objet, je choisis un papillon morpho, en aucun cas cette couleur bleue n'est due à un pigment, mais elle est due à un phénomène physique. Ce phénomène physique, c'est ce qu'on appelle les interférences, dont je parlerai tout à l'heure. Et on parle de couleurs interférentielles, qu'on le retrouve partout, depuis la simple bulle de savon jusqu'à l'opale précieuse, en passant par la nacre, etc. Mais il y a d'autres phénomènes physiques qui donnent lieu à des couleurs. Il y a par exemple la dispersion de la lumière. Dispersion de la lumière par les gouttelettes de pluie, c'est la formation de l'arc-en-ciel. Et puis des couleurs par diffusion, qui sont à l'origine de la couleur bleue du ciel et de la couleur des plumes bleues des oiseaux. Alors pour toutes ces couleurs physiques, eh bien effectivement, la nature chimique du matériau a peu d'importance. Ce qui compte surtout, c'est la microstructure du matériau. Et c'est pour ça que souvent on emploie le terme de couleur structurale par opposition aux couleurs pigmentaires. Mais personnellement, le terme de couleur pigmentaire ne me convient pas très bien. D'abord, il y a les pigments, mais il y a aussi les colorants. Il y a quand même une nuance, même si la frontière n'est pas très précise entre les deux, il y a quand même une nuance. En principe, un colorant est insoluble dans le milieu dans lequel il est dispersé, c'est ce qu'on fait en peinture, alors qu'un colorant est soluble. Et si on veut transformer un colorant en pigment, on l'absorbe sur une poudre blanche, et ce qu'on appelle un pigment laqué ou une laque. Et... Alors, il y a un cas, justement, qu'il est difficile de classer, qui va nous servir de réflexion. C'est le vert rubis, VE2RE. Hein. Donc, c'est le vert qui est de couleur rouge et dont la couleur est due à l'inclusion de nanoparticules d'or. Et donc, ces nanoparticules ne sont pas des pigments, mais se comportent comme tels. C'est-à-dire qu'elles absorbent toutes les longueurs d'onde, sauf dans le rouge. Mais la couleur n'est pas la même si je prends des particules de cuivre ou d'argent. Alors s'agit-il d'une couleur chimique ? Mais le phénomène responsable de la couleur, c'est un phénomène physique. Parce que ici, l'absorption est due au fait que les ondes électromagnétiques constituant la lumière provoquent une oscillation collective des électrons. C'est ce qu'on appelle les plasmons de surface. Et ça, c'est bien un phénomène physique. Et puis la raison pour laquelle j'ai mis des guillemets à couleur chimique, c'est que le phénomène responsable de l'absorption, ce n'est pas un phénomène chimique. C'est l'absorption de la lumière par une molécule, et bien c'est l'absorption d'un photon qui porte cette molécule dans un état d'énergie supérieure, dans les divers niveaux excités. Et ça, c'est un phénomène physique, puisque ça relève de la physique quantique. Et donc, personnellement, je trouve qu'il serait préférable de parler de couleur par absorption. Et à ce moment-là, on rassemble tout ce qui est lié à la nature chimique. Alors, pour terminer sur cette partie du tableau, bien, vous voyez que ici, vous avez résumé toutes les couleurs qui ont pour origine l'interaction lumière-matière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également
l'émission de lumière que nous percevons colorée, par exemple ce pointeur laser et d'autres composants qui fonctionnent à peu près sur le même principe, ce sont les diodes électroluminescentes et les fameuses LED. Et c'est un cas particulier de luminescence qu'on appelle l'électroluminescence parce que le phénomène responsable de l'émission de lumière, c'est l'application d'un champ électrique. Mais c'est un cas de luminescence parmi bien d'autres. Il y a aussi la photoluminescence qui est consécutive à une absorption de lumière, la chimiluminescence qui est une émission qui accompagne une réaction chimique. Et personnellement, je vous dirais que c'est celle-là. C'est là réellement la seule couleur chimique à mes yeux. Et puis la bioluminescence, qui est un peu la même chose, mais pour une réaction biochimique. Et puis je pourrais citer la cathodoluminescence, la triboluminescence, la sonoluminescence, etc. etc. Et puis vous êtes sans doute plus familier avec une autre sorte d'émission de lumière par la matière, qui donne lieu aussi à des couleurs, c'est l'incandescence. L'incandescence qui résulte du fait qu'on porte des corps à haute température. Et là, vous voyez que les couleurs vont du rouge au bleu, en passant par l'orangé, le jaune, le blanc, et le bleu pour les étoiles les plus chaudes, alors que je signale que les étoiles les moins chaudes sont rouge-orangé. Alors, on parlait d'éteintes chaudes, d'éteintes froides, tout ça. Il faut faire attention à la subjectivité des couleurs, une fois de plus. Et alors, ici, la très grande différence avec la luminescence, c'est que ces couleurs sont pratiquement indépendantes de la nature du corps émetteur, ne dépendent pratiquement que de la température. Alors qu'au contraire, dans le cas de la luminescence, la couleur est intimement liée à la nature chimique du corps émetteur, mais ne résulte pas d'un échauffement. Et c'est pour ça que très souvent, on appelle la luminescence la lumière froide, par opposition à l'incandescence, qui est la lumière chaude. Et donc, finalement, dans ce tableau, vous avez réuni toutes les possibilités, ou presque, de formation de couleurs. Avec, je vous signale, dans la partie droite, les couleurs qui sont liées à la nature chimique. Donc, il n'y a pas que les couleurs chimiques, entre guillemets, telles qu'on les définit couramment. Et puis, il y a les couleurs qui ne sont pas liées à la nature chimique. Et il n'y a pas que les couleurs physiques. Alors, voilà le panorama complet, finalement, de la genèse des couleurs. Et je pourrais arrêter mon exposé là. Je jette un coup d'œil sur l'horloge. J'ai encore un petit peu de temps. Mais qu'en fait, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est accessoire. C'est-à-dire que si vous avez compris cette chose-là, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette classification, qui, je dois vous l'avouer, est un peu personnelle, hein, parce que souvent, dans la très grande majorité des cas, et même dans des traités de couleurs, je ne nommerai pas, on retrouve une classification couleur physique, couleur chimique, couleur physiologique. D'ailleurs, je n'aime pas le terme couleur physiologique, parce que pour moi, c'est un pléonasme. Par essence, une couleur est physiologique, mais peu importe. Donc, voilà ce panorama auquel je vais ajouter quelques petites choses, et en supprimer d'autres parce que je veux rester dans le temps imparti. J'avais prévu de parler un peu d'incandescence, mais qui reste un peu marginal dans le domaine de la couleur. Le seul intérêt, c'est d'introduire le concept de température de couleur. Bon, mais je vais passer là-dessus. Je ne pense pas que ça soit absolument capital. Et puis, je vais surtout insister sur les couleurs. Donc, dites physiques, je vais garder la dénomination physique, mais avec des guillemets, si vous me permettez. Et puis, sur les couleurs de la luminescence, mais je ne parlerai pas du tout des couleurs des pigments et des colorants, parce qu'ils ont été très largement évoqués dans les divers exposés de cet après-midi, donc il n'y a pas à y revenir. Et c'était d'ailleurs extrêmement enrichissant. Alors, les couleurs physiques, comme je le disais tout à l'heure, sont des couleurs par dispersion, par diffusion et des couleurs interférentielles. Alors, je commence par le BABA, ce qui sont les couleurs par dispersion, qui sont dues au phénomène de réfraction de la lumière. Ce sont les fameuses expériences du prisme qui qui ont une très grande importance dans l'histoire de la lumière et des couleurs, et je ne reviens pas sur les travaux de Newton, qui, grâce à ses expériences, il n'était pas le premier à observer les couleurs du prisme, mais grâce à ses expériences, il avait pu démontrer que la couleur blanche n'était pas homogène, et il arrivait à reconstituer la lumière blanche à partir de ces rayons qu'il appelait différemment réfrangibles, et c'était vraiment... ça mettait fin à la théorie d'Aristote, fin entre guillemets, parce que Goethe n'était pas d'accord avec Newton, enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Alors vous voyez qu'ici, lorsque la lumière pénètre dans un prisme, elle en ressort avec une déviation différente par le phénomène de réfraction, une déviation différente selon la longueur d'onde, c'est une question de vitesse de la lumière qui n'est pas la même selon la longueur d'onde dans un matériau, donc en dehors du vide. Le rouge est moins dévié que le violet. Alors si au lieu d'un prisme vous prenez une sphère d'eau éclairée à travers un écran percé d'un trou, eh bien vous allez observer des anneaux concentriques parce que la lumière pénètre, elle subit une première réfraction, puis une réflexion interne, puis une deuxième réfraction, et donc vous avez les anneaux colorés, et l'arc-en-ciel, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que si toutes les gouttelettes de pluie joue le rôle de cette sphère, et donc vous avez l'arc-en-ciel. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors maintenant, quand la lumière traverse un milieu transparent, mais contenant de fines particules, alors une partie de la lumière est déviée dans les diverses directions, et c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et là, deux grands cas à retenir. Si ces particules ont une taille supérieure, en gros, au dixième de la longueur d'onde, c'est la diffusion demi. Du nom du théoricien Gustave Mie, qui a établi cette théorie en 1908, et qui prévoit que finalement, la longueur d'onde de la lumière diffusée n'est pas très différente de la longueur d'onde de la lumière incidente. Donc si les objets sont éclairés en lumière blanche, ils vont diffuser de la lumière blanche. Vous en avez divers exemples ici. Si en revanche, les particules ont une taille inférieure au dixième de la lumière de la longueur d'onde, alors là, c'est une toute autre théorie, c'est la théorie de Rayleigh, de Lord Rayleigh, qui, dans les années 1870, a montré que l'efficacité de la diffusion par de la lumière de courte longueur d'onde était beaucoup plus grande que pour la lumière de grande longueur d'onde. En gros, il y a une efficacité 10 fois supérieure dans le violet que dans le rouge. Et donc, c'est ce qui explique en particulier la couleur bleue du ciel. Mais lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que la lumière a traversé une très grande distance, eh bien cette lumière va se trouver appauvrie, puisqu'elle est davantage diffusée dans les courtes longueurs d'onde, appauvrie en bleu et en violet, et finalement c'est ce qui va donner ces teintes jaune, orangé, rouge. Mais si l'atmosphère se charge d'humidité, alors on passe dans le régime de diffusion demi et le ciel devient blanc ou gris. Les couleurs interférentielles, comme leur nom l'indique, proviennent du terme du phénomène d'interférence. Et pour bien comprendre de façon simple de quoi il s'agit, eh bien, imaginez que vous jetez dans l'eau deux cailloux au même moment. Et à ce moment-là, des ondes concentriques se propagent et vont interférer entre elles. Et en certains points, le maximum de l'une va correspondre au maximum de l'autre. Et à ce moment-là, il va y avoir exaltation de l'amplitude et on appelle ça des interférences constructives. Au contraire, dans d'autres points, le maximum de l'un correspond au minimum de l'autre, eh bien, on a affaire à des interférences destructives. Eh bien, quand on a compris ça, on a compris les couleurs interférentielles. Par exemple, je commence par la bulle de savon ou un film d'eau sur un film d'huile sur l'eau. Ici, il s'agit de couches minces dont l'épaisseur est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Donc, les ondes lumineuses qui sont réfléchies sur la face avant interfèrent avec les ondes lumineuses qui sont réfléchies sur la face arrière et qui sont réfractées. Et alors, dans certaines directions, selon la longueur d'onde, les interférences sont constructives, c'est le cas du rouge ici, et au contraire, pour d'autres longueurs d'onde, j'ai imaginé le bleu ici, elles sont destructives, et à ce moment-là, on ne voit pas la couleur. Et effectivement, vous pouvez facilement deviner que selon l'épaisseur de la couche, selon l'angle selon lequel on l'observe, c'est l'objet, et selon l'incidence, on verra des couleurs différentes. Et alors, le facteur de réflexion est considérablement augmenté lorsqu'on a affaire à des multicouches, parce que chaque interface contribue à la réflexion, et c'est le cas de la nacre, puisque la nacre est constituée d'un empilement de couches alternativement organiques et inorganiques. Et puis le cas des scarabées, de la mouche verte, etc. Alors, lorsque l'objet a une microstructure périodique, avec des motifs structuraux qui sont de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, eh bien, il se produit un phénomène qu'on appelle la diffraction, du latin diffracté, qui avait été inventé par Grimaldi, pour dire qu'en fait, lorsque la lumière frappe un objet dans la dimension de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, les faisceaux, les rayons lumineux sont déviés. Et du fait qu'ils sont déviés par tous ces motifs, eh bien, chaque motif va se comporter comme une nouvelle source et les ondes issues de ces sources vont interférer entre elles. Et le cas le plus simple, c'est le disque compact. C'est une structure périodique à une dimension lorsque vous vous déplacez depuis le centre vers l'extrémité. Mais vous avez aussi une structure périodique à deux dimensions et j'ai illustré ça par la plume de Pan ou le papillon morpho qui, vous voyez, par les clichés de microscopie électronique ici, révèle effectivement, à l'échelle largement en dessous du micromètre, cette structure périodique à deux dimensions, puis enfin à trois dimensions. Eh bien, ce sont les fameuses opales précieuses qui sont constituées d'un arrangement régulier de microsphères de silice dont la taille est inférieure au micromètre. Alors, je vais terminer par les couleurs de la luminescence. Et ça, c'est un domaine qui m'est plus familier parce que je travaille en recherche surtout dans le domaine de la fluorescence. Et vous voyez en particulier le cliché que j'ai pris ici en dissolvant progressivement de la poudre de différents composés, rhodamine, coumarine, etc., dans un milieu dont la viscosité est juste adaptée pour que ça fasse de ces jolies volutes. Bon, mais ça, c'est pour l'art. Et alors, je rappelle d'abord que le mot luminescence a été introduit par le physicien allemand Widmann en 1888 pour désigner tous les phénomènes lumineux qui ne résultent pas d'une augmentation de température, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais parler principalement, dans le temps qui m'est imparti, de fluorescence et d'électroluminescence qui, dans la pratique, sont les formes de luminescence les plus utiles. Alors, dans le cas de la fluorescence d'abord, eh bien, la fluorescence est une émission de lumière consécutive à une absorption de lumière, c'est-à-dire que des molécules qui sont susceptibles d'absorber cette lumière, certaines reviennent à l'état fondamental sans émettre de lumière, c'est les colorants habituels, mais il y a des colorants fluorescents, c'est-à-dire en revenant à leur état fondamental, elles émettent de la lumière qu'on appelle fluorescence. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des pertes d'énergie par vibration, etc. Donc du fait qu'il y ait des pertes d'énergie, l'émission est décalée vers les énergies plus faibles, c'est-à-dire vers les longueurs d'onde plus grandes. Et c'est pour ça que j'ai représenté ici cette solution de fluorescéine que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir la fluorescence en excitant dans l'UV, ce qu'on appelait autrefois la lumière noire. Et donc vous voyez en excitant dans l'UV, uniquement les couleurs par fluorescence. Et vous avez ici trois exemples tout à fait caractéristiques. La fluorescéine, bien sûr, parce que c'est le premier colorant fluorescent qui a été préparé par Bayer en 1871. Puis il y a les coumarines, les rhodamines, les acridines, etc., des dizaines, des centaines de colorants. Et puis je veux quand même parler des colorants que nous avons mis au point il y a longtemps dans mon équipe. Ce sont des 7-aminobenzoxazinones. Et sans rentrer dans les détails des formules chimiques, en faisant varier les substituants, eh bien on peut avoir toutes les couleurs de la fluorescence. Et ces colorants ont été utilisés comme colorants laser à une époque, et également en biologie pour faire de la cytométrie en flux, mais je ne détaille pas ça. Et surtout, la fluorescence, c'est un moyen, et ça j'ai beaucoup utilisé à titre personnel, un moyen extraordinaire d'explorer la matière inanimée, la matière vivante. Pourquoi ? Parce que la couleur de la fluorescence, et nous disons le spectre, et extrêmement sensible au micro-environnement de ces molécules fluorescentes. Alors pour les biologistes, évidemment, c'est un rêve, parce que vous pouvez faire de la microscopie de fluorescence et visualiser, en choisissant bien la molécule fluorescente, visualiser, compte tenu de sa nature chimique, elle va se fixer soit dans un noyau, c'est-à-dire entre les, dans les listes de l'ADN, etc., ou au contraire, se mettre dans des zones où il y a des microtubules, enfin, je ne détaille pas, c'est un moyen extraordinaire. Donc vous avez ici un bel exemple de couleur de fluorescence appliquée à la biologie. Alors toutes ces applications, évidemment, sont extrêmement importantes en recherche fondamentale et appliquée, et les couleurs fluo de la vie quotidienne, pour moi, sont totalement anecdotiques. Hein, et donc, je dirais que l'intérêt, ce sont des couleurs lumineuses. Alors, la mode passe, revient. Dans les années 1980, c'était très à la mode. Et l'été dernier, si vous avez remarqué, c'était aussi de nouveau la mode fluo. Alors ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que aux couleurs par absorption, parce que là, on est en lumière du jour, donc aux couleurs par absorption, se superposent les couleurs par émission. Et donc, on a affaire à des couleurs extrêmement lumineuses. D'où l'application pratique, bien connue, des gilets de sécurité. Alors, beaucoup moins anecdotique, et quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas bien, c'est l'utilisation d'azurants optiques qui fluorescent dans le bleu pour rendre le linge, alors j'ai repris l'ancienne, rendre le linge plus blanc que blanc, l'ancienne publicité qui date d'il y a 20 ou 30 ans, ou même plus. Et effectivement, les fibres naturelles sont de couleur qui tire sur le jaune, ce qui n'est pas très esthétique. Et donc, pour compenser cela, on ajoute un azurant optique qui, lui, fluoresce dans le bleu, comme vous pouvez voir, sous UV. Eh bien, vous voyez la vraie couleur de fluorescence, soit de lessive, soit d'une manche de chemise. Et donc, à la couleur jaune par absorption, se superpose la couleur bleue par émission. Et comme il s'agit des deux teintes des couleurs complémentaires, le résultat, c'est un blanc particulièrement lumineux. Une autre application qui n'est pas anecdotique, très importante industriellement et que vous connaissez bien, c'est le tube fluo, les lampes fluo compactes. Mais avant d'en expliquer le fonctionnement, parce qu'il ne faut pas le confondre avec le tube néon, ce que beaucoup de gens font, je vais vous parler de l'électroluminescence et en particulier du néon. Alors l'électroluminescence, c'est donc par définition l'émission de lumière consécutive à l'application d'un champ électrique. Alors d'abord, on peut appliquer un champ électrique à un gaz, en appliquant une tension aux deux électrodes. Et au-delà d'une certaine tension, eh bien, les électrons viennent frapper les atomes de néon. Ils sont portés dans un état excité. Et en revenant à l'état fondamental, ils émettent de la lumière. Mais c'est un spectre de raies qui correspond aux différents niveaux d'énergie des atomes et non pas un spectre continu, comme dans le cas de l'incandescence. Donc c'est ça, le tube néon. Le tube fluorescent met en jeu à la fois l'électroluminescence et la fluorescence. C'est-à-dire que la première étape, c'est une décharge dans de la vapeur de mercure, en très faible quantité, je vous rassure. Et donc, la collision des électrons sur ces atomes de mercure provoque une émission donc d'électroluminescence, et en particulier à 254 nanomètres. Et ces UV servent à exciter trois luminophores qui fluorescent dans le bleu, le rouge et le vert, et sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive, et donc vous avez une sensation de blanc, et les lampes fluo-compactes fonctionnent tout à fait selon le même principe. Alors attention, quand vous voyez des enseignes lumineuses, eh bien, il ne s'agit pas de tubes néon, il s'agit de tubes fluorescents, et vous choisissez le luminophore en fonction de la couleur que vous souhaitez. Alors, je terminerai avec les diodes électroluminescentes, qu'on appelle LED, l'acronyme de Light Emitting Diodes. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement. Cette fois-ci, on applique un champ électrique non pas à un gaz, mais à un solide, plus précisément à un semi-conducteur, même à une jonction PN, pour faire savant. Et donc, vous avez tous vu ces diodes électroluminescentes. Une ici, par exemple, etc. Et vous envoyez dans l'état d'application. Alors, quelques mots sur l'avantage, la faible consommation, la taille réduite, insensible aux chocs et aux vibrations, allumage quasi instantané, et surtout durée de vie longue. Et donc, on en parle toujours comme l'éclairage de demain, mais ça tarde à venir parce que l'inconvénient, c'est qu'elles sont très directionnelles. Et en plus, elles coûtent encore très cher quand on veut avoir un blanc qui ne soit pas froid, et qui ne soit pas désagréable. Et d'ailleurs, pour obtenir une LED blanche, eh bien, on utilise en général une LED bleue et on utilise un luminophore qui émet dans le reste du spectre, comme vous voyez ici, donc dans le maximum et dans le jaune. Et en jouant sur l'importance relative de l'émission du luminophore et de l'émission de la LED bleue, on peut jouer comme ça sur la température de couleur, mais ça exige encore des travaux. Alors ces deux électroluminescentes, on les voit absolument partout, dans toutes les situations, comme vous pouvez voir ici. Et puis, comme elles sont peu consommatrices d'énergie, elles sont très utilisées pour l'éclairage des monuments, ici la tour Akbar à Barcelone, et puis aussi notre bonne vieille tour Eiffel. Et donc, je terminerai donc ici mon exposé en disant que toutes ces explications, finalement, de la genèse des couleurs ne révèlent rien sur l'action des couleurs sur nous, sur l'humain. Et car, comme le disait le peintre Johannes Itten, le secret le plus profond et le plus essentiel de l'action des couleurs demeure invisible même pour l'œil et ne peut être contemplé que par le cœur. Merci de votre attention.
Merci beaucoup pour cet exposé lui aussi très didactique et très clair, qui, pour ceux qui sont peu compétents comme moi dans certains domaines, la fluorescence, par exemple, m'ont appris beaucoup de choses. Qui souhaite prendre la parole, demander des précisions, apporter des compléments avant que nous nous quittions?
Je crois que tout le monde est un peu fatigué, là.
Non, pas de remarques. Tout était clair? Quand j'ai présenté la journée ce matin, je disais que des spécialistes venus de disciplines différentes se réunissaient avec joie pour parler de la couleur et au bout de 3-4 minutes s'apercevaient qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas tout à fait été le cas aujourd'hui. Et en vous écoutant, je me réjouissais au contraire que aujourd'hui, on a l'impression que nous avons pu... dans notre immense diversité, nous concentrer quand même sur un certain nombre de problèmes qui nous sont communs. J'ai l'impression que à nous huit, nous faisons une belle équipe. Nous devrions faire des tournées, des tournées couleurs dans toutes les villes de France. Donc, qui souhaite intervenir?
Merci pour cet exposé, vraiment c'était très très agréable à entendre. Je voulais juste vous dire que dans la maison on a beaucoup présenté l'exemple des nanoparticules et notamment des applications dans les vitraux, donc peut-être vous pourriez en dire quelques mots puisque les gens qui sont là n'étaient pas forcément présents lors de l'exposition d'ailleurs et puis des conférences multiples que nous avons fait sur les nanoparticules.
Oui, je vais être très rapide parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais effectivement, dans le cas des vitraux, vous voyez que j'ai 108 diapos là, donc on peut rester jusqu'à...
Vous reviendrez, monsieur.
7 heures, mais j'ai un problème de train quand même. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une application très intéressante. Et que vous voyez ici que dans les vitraux, eh bien... Le jaune est dû à des particules de chrome et d'argent en particulier, et que le rose et le rouge sont dus à des nanoparticules d'or. Et que ce sont des cas tout à fait effectivement remarquables de couleurs obtenues par, non pas par des pigments, non pas par des composés qu'on appelle composés chimiques, comme le sont l'oxyde de cobalt ou l'oxyde de cuivre, mais on peut même utiliser le sélénium. Mais il y a aussi les sels de fer, les oxydes de manganèse. Mais donc, le principe, c'est celui que j'ai déjà expliqué. Hein. C'est-à-dire que c'est des fers savants sont des plasmons de surface.
On a aussi apprécié un chercheur qui travaille au laboratoire de neurosciences et qui nous a montré, lors de la journée d'études de l'homme et de l'animal, à notre grande âme, une souris fluorescente, verte, sur laquelle il fait... il fait des recherches.
Ah oui, alors ça, c'est aussi un aspect qui est très intéressant, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui, effectivement, il n'y a pas que les souris. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, vous pouvez rendre les animaux fluorescents. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est-à-dire que tout ça, c'est venu de la bioluminescence, en fait, parce qu'on a extrait d'une méduse qu'on appelle Echura victoria, un gène, donc d'une protéine fluorescente, et on a fait un clonage, et on a fait exprimer ce gène dans la machinerie cellulaire d'un certain nombre d'organismes, et ce qui rend l'animal fluorescent. Mais le but, ce n'est pas de rendre l'animal fluorescent. Le but, c'est de s'en servir comme outil en biologie. Et vous voyez quelques exemples pour le suivi de l'évolution de cellules dans les embryons, dans les organismes sains ou les tumeurs, suivi de l'expression d'un gène ou de la propagation d'un virus. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait sérieux. Et alors, ce qui est tout à fait aussi extraordinaire, c'est que c'est une méthode de marquage aussi qui est remarquable. C'est-à-dire, vous voyez ici, on peut faire de l'imagerie multicouleur grâce à ces protéines fluorescentes et comme ça donner à chaque neurone des couleurs différentes. Et donc vous pouvez visualiser les connexions synaptiques, vous pouvez voir le vieillissement cellulaire. Et là, ça a été fait directement sur le cerveau de souris. Donc vous voyez, merci d'avoir posé cette question parce que j'avais éliminé ces diapos faute de temps. Mais c'est des applications de la fluorescence. Pour moi, c'est un régal. Je pourrais en parler pendant des heures.
D'ailleurs, des artistes contemporains utilisent des animaux et font des manipulations, si je puis dire, un petit peu malsaines.
Justement, il y a un artiste, avec Edouard Kak, qui est de l'Université de Chicago, qui a utilisé le lapin fluo. Oui. Et Jean-Marie Houbedine de l'INRA me disait qu'il était furieux parce que sur Internet, c'est un faux lapin fluo, c'est une fausse photo. Et celle que je vous ai montrée juste avant, c'est la vraie, parce que c'est Louis-Marie Debine qui me l'a communiquée. Et ils voulaient emprunter leur lapin fluo pour l'exhiber dans des expositions. Enfin bon.
Il n'a pas eu l'autorisation. Il est venu chez nous, on l'avait invité.
Oui.
Monsieur Pastoureau, le mot de la fin. Avant que nos amis prennent le taxi qui va arriver. Là.
C'est dommage. Hein.
Ben, le mot de la fin, c'est le mot taxi, bien sûr. Non, comme je le disais à l'instant, j'ai l'impression que nous sommes presque sur la même longueur d'onde. Cette dernière intervention a montré ce qu'était le phénomène couleur, une lumière, un objet sur lequel tombe cette lumière et un récepteur qui est l'être humain avec son couple œil-cerveau. L'être humain ne vivant pas tout seul, mais en société, donc ça complique les problèmes et ça ouvre tous les aspects culturels de la couleur. Mais dans cette espèce de chaîne, évidemment, tous les éléments sont interdépendants. Chez Goethe, il y a, même s'il se trompe par rapport à Newton, ou s'il s'obstine à vouloir donner tort à Newton, il y a quand même cette phrase extrêmement importante, cette question, est-ce qu'une robe rouge est encore rouge quand personne ne la regarde ? Et il répond non, et j'aurais tendance, et vous aussi je suppose, à répondre non avec lui. Bernard Valeur nous a dit à l'instant que la couleur ne pouvait pas ne pas être physiologique. Donc gardons à l'esprit tous ces questionnements et essayons peut-être de nous rencontrer à nouveau dans je ne sais pas combien de temps pour échanger entre nous et avec d'autres autour de ce sujet qui est totalement polymorphe, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, presque insaisissable ou en tout cas parfois rebelle à l'analyse, mais c'est ce qui en fait tout le charme et toute la magie. Donc merci à tous, aux organisateurs, aux orateurs, au public, au Centre Mendès France, et continuez à communier et militer pour la couleur.